France Musique.
Étonnez-moi, Benoît.
Voici quelques mois, j'ai eu le plaisir de retrouver la trace d'une artiste très présente sur les scènes d'opérette des années 50. Elle a créé plusieurs rôles importants auprès de Tino Rossi. Dans le temps des guitares, Méditerranée ou Naples au baiser de feu, elle se faisait alors appeler Arlette Patrick, avant de retrouver quelques années plus tard son vrai nom d'Arlette Mirapeux et de revisiter la chanson française. Cette femme étonnante n'a rien perdu de son énergie, comme vous le constaterez dans quelques minutes, grâce à la magie de la radio et de cet appareil qu'on appelait autrefois une TSF.
L'autre jour, mamselle Hortense, depuis longtemps j'y faisais la cour. Elle me dit, maman est en vacances, venez donc demain me dire bonjour. Je vous ferai voir une invention toute nouvelle. C'est très rigolo, c'est épatant, oui, enfin bref. C'est un instrument en fer, en bois et en ficelle. Et on appelle ça un appareil de TSF. Ah ben mon dieu alors. J'arrive, elle me montre une boîte, elle me dit ça va causer. Tournez donc le bouton à droite, ça va bien vous amuser. Moi pendant ce temps-là, je vais aller faire à la cuisine une tasse de café, ça vous plaît-il? J'y réponds oui. Je tourne le petit bouton et voilà que j'entends une voix divine qui se met à chanter, c'est toi que j'aime, oh mon chéri. Oh ben ça c'est une aventure alors. Je me dis ça c'est une affaire, c'est pour moi qu'elle a le béguin. Seulement comment que je vais faire pour la sortir du machin? Elle continue, je te ferai voir de belles choses. Elle était maline pour m'exciter, elle soupirait. Je connais un pays où le ciel est teinté de rose. Je dis je veux bien y aller pour ces trucs-là, je suis toujours prêt. Ah, tu parles, dis alors. Elle parlait toujours encore, je pensais quelle tapette qu'elle a. Je dis je le sais bien que tu m'adores, il y a 2 heures que tu me dis que ça. Sors un peu de là-dedans, si tu veux qu'enfin on se connaisse. Tu m'aimes, j'ai compris, et moi aussi je veux bien t'aimer. Mais comment ferons-nous si tu ne me donnes pas ton adresse? Que tu veux pas sortir et que moi je ne peux pas rentrer. Non mais enfin c'est vrai ça, tout le monde quoi. Tout à coup le fourbi s'arrête, quelqu'un crie c'est terminé. Pensez si j'en faisais une tête, j'avais même pas commencé. Et je ronchonnais la TSF, c'est bête tout de même. Pour se moquer de vous, des tas de bonnes femmes se cachent là-dedans. Elles vous disent comme ça, viens mon chéri, c'est toi que j'aime. Et puis quand on croit qu'on va les tenir et foutre le camp, c'est sacré femme enfin. Heureusement, mademoiselle Hortense arrive avec son café. J'avais tellement d'éloquence qu'enfin elle m'a écouté. Elle me l'a donné, le truc de fourbi, le machin de l'ivresse. Les trésors d'amour, moi je les ai eus comme j'ai voulu. Quant à la bonne femme, elle peut bien rester dans sa caisse. Elle peut raconter tout ce qu'elle voudra, je l'écouterai plus. Et voilà, non, mais alors quoi, comme la
Voilà, c'est l'un des plus grands professeurs de diction, n'est-ce pas, ce maître du comique troupier, monsieur Ouvrard, vous l'avez reconnu. Il est connu effectivement surtout pour ses chansons militaires, mais aussi des chansons d'époque, comme celle-ci, donc sur la TSF, un disque pâté paru en 1930.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et puisque nous ne sommes pas très loin du dernier concert du Nouvel An, tiens, je vous propose de retourner quelques instants à Vienne avec un véritable chef-d'œuvre, la Libellule, une polka mazurka, autrement dit une musique à trois temps très très lente de monsieur Joseph Strauss, le petit frère de Johann, dans l'interprétation sublime de Carlos Kleiber à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Vienne. On a vraiment l'impression de l'avoir bougé sur place, cette libellule, dans cet enregistrement du concert du Nouvel An 1989 sous la direction de Carlos Kleiber. Mais ces applaudissements, ils s'adressent aussi à mon invité qui vient de nous rejoindre. J'ai été très heureux de la retrouver grâce à l'aide de Mathieu Moulin, de Marianne Melody, cette femme qui a chanté beaucoup d'opérettes dans les années 50. Et j'ai été surpris d'entendre au téléphone une femme très vive, très présente toujours et très active, qui a bien voulu venir avec nous évoquer ses souvenirs sous son double nom, puisque je reçois à la fois Arlette Patrick et Arlette Mirapeux.
Mon chéri, me mener toute la vie par le bout, le bout, par le bout, le bout, par le bout, le bout du nez, par le bout, le bout, par le bout, le bout, par le bout, le bout du nez. Si tu veux devenir mon mari, je veux bien répondre oui, je veux bien te suivre gentiment, mais par le bout, le bout, par le bout, le bout, par le bout, le bout du nez, par le bout, le bout, par le bout, le bout, par le bout, le bout du nez. Chaque fois que tu voudras mon corps, je serai toujours d'accord. Tu pourras m'embrasser nuit et jour, mais en commençant toujours par le bout, le bout. Par le bout, le bout, par le bout du nez. Par le bout, le bout, par le bout, le bout, par le bout du nez. On prétend que le plus grand amour ne peut pas durer toujours, mais le nôtre ne pourra finir, car je saurai te tenir. Par le bout, le bout, par le bout, le bout, par le bout. Le bout du nez, par le bout, le bout, par le bout, le bout, par le bout.
Le temps des guitares, c'était à l'ABC en 1963 avec mon invité. Bonjour.
Bonjour.
J'allais dire bonjour madame parce que je ne sais pas si je dois dire bonjour Arlette Mirapeux ou bonjour Arlette Patrick.
Arlette Mirapeux parce que Patrick c'est dans une autre vie.
Oui, mais celle qu'on vient d'entendre, c'était bien Arlette Patrick.
Ah, tout à fait. Voilà, donc j'ai eu deux vies différentes dans ce métier.
Voilà, Arlette Patrick, c'était votre nom de chanteuse d'opérette, on peut dire.
Voilà, hein,
en particulier dans les années donc 50-60, ça ne nous rajeunit
oui,
pas. Et pourtant,
oui, oui.
Je vous vois là presque comme une jeune femme devant moi, en retrouvant donc ces souvenirs discographiques. Le temps des guitares, opérette de Francis Lopez, à l'ABC, c'est un bon souvenir pour vous?
Oui, bien sûr. Sinon, Rossi était un monsieur très sympathique.
C'était lui la tête d'affiche, hein?
Ah oui.
Le spectacle était construit autour de lui.
Autour de lui, voilà, c'est ça. Et on gravitait autour de Tino aussi, voilà.
Voilà, et vous étiez toute une bande là, hein. Il y avait notamment Pierre Doris, Josy Andrieux qui est venue ici il n'y a pas très longtemps, Maurice Baquet, Rita Cadillac. Hein.
Ah oui, Rita Cadillac, c'était un personnage.
C'était une actrice hein, et chanteuse.
Oui, c'est ça, oui. Une grande fille, très belle d'ailleurs, magnifique. Oui.
Mais c'était la gloire d'être à l'affiche, à l'ABC, dans un vrai rôle, avec des chansons, devant un public vaste qui se précipitait pour ce genre d'opérette à l'époque. J'imagine que vous deviez être très grisé, non?
C'est-à-dire que j'en avais fait un petit peu avant,
oui.
Donc oui, bien sûr. Mais en fait, ça, c'était un petit peu une continuité de mon métier, quoi.
Mais pour vous, Arlette Patrick, il faut dire que le métier, ça a toujours été, hein, on peut dire, le mélange de la danse, du théâtre et de la chanson.
Toujours, toujours.
Voilà.
C'est ce qui m'a permis de travailler très longtemps.
Quelques souvenirs encore du temps des guitares, plus précisément, une anecdote.
C'est vraiment...
Pierre Doris.
Alors, Pierre Doris, on avait comme chef d'orchestre Chauvigny.
Robert Chauvigny.
Voilà. Et puis, il était très malade. Et puis, il est mort. Pendant qu'on faisait encore le spectacle. Donc, on l'a remplacé, le chef d'orchestre.
qui avait été le chef d'orchestre d'Edith Piaf, notamment.
Voilà. Hein, voilà. Et alors, j'étais à côté de Pierre Doris à la Madeleine, à l'enterrement. Et Pierre Doris, qui avait toujours le mot pour faire quelque chose, il dit « c'est la dernière fois qu'il va dans la fosse ».
Ah oui, c'était bien trouvé. Ça, c'était le côté humour noir de Pierre
l'humour
Doris.
L'humour noir de Pierre Doris.
Exactement. Voilà. Et Maurice Baquet ?
Ah, Maurice Baquet, alors un grand ami, un grand amour. Ah, vraiment, ça a été quelqu'un que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Ouais.
Et Tino Rossi, lui, vous traitez un peu de haut, comme des partenaires autour de la vedette ou il était sympathique?
Non, il était très familier. Non. Un petit peu sur son ventre, mais voilà. À propos de ventre, j'ai une anecdote. On était à Lyon, on avait joué, peut-être le temps des guitares ou je ne sais pas quoi. Et puis, parce que j'en ai fait plusieurs avec lui. Oui. Donc, on était dans une boulangerie qui nous avait invités pour le thé l'après-midi, pour interviewer, pour les journaux, Tino Rossi. Et puis, tout d'un coup, il reçoit une petite lettre. J'étais à côté de lui et il regarde et il voit Tino Rossi à la brioche. Et il me dit, c'est vrai, mais quand même, de là à me l'écrire. En fait... On était dans une boulangerie qui s'appelait à la brioche.
Ah là là, le pauvre. Il l'avait mal pris, évidemment. Ça, c'était donc le temps des guitares, opérette en 2 actes et 20 tableaux, hein, avec effectivement Armand Mignani qui a pris la suite de Robert Chauvigny.
Voilà, c'est ça.
Et avec ses chansons un peu dans le style de l'époque, yéyé, comme ce bout du nez que vous chantez très joliment.
Ah oui, merci.
Vous avez enregistré tout de suite après la création les disques.
Je me demande si ça ne s'est pas fait avant.
Même avant, voilà, comme on fait.
Je pense
aujourd'hui.
Que c'était avant.
Alors, en tout cas, Arlette Patrick, merci d'être venue avec nous aujourd'hui. On va remonter le temps ensemble et évoquer quelques-uns justement de ces souvenirs de spectacles et de chansons. Et pour commencer, on va aller dans vos souvenirs musicaux avec la voix d'un grand artiste disparu de l'après-guerre que vous avez beaucoup fredonné, je crois. C'est André Claveau.
À la marraine, le cerisier rose et pommier blanc, j'ai cru mourir d'amour pour elle en l'embrassant. Avec ses airs de demoiselle, cerisier rose et pommier blanc, elle avait attiré vers elle mon cœur d'enfant. La branche d'un cerisier de son jardin caressait la branche d'un vieux pommier qui dans le mien fleurissait. De voir leurs fleurs enlacées comme un bouquet de printemps, nous vint alors la pensée d'en faire autant. Et c'est ainsi qu'aux fleurs nouvelles, cerisier rose et pommier blanc, on fait un soir la courte échelle à nos 15 ans. Non, ne dites pas qu'à son âge vous n'étiez pas si volage. Non, quand deux lèvres vous attirent, j'en sais peu qui peuvent dire non. Quand nous jouions à la marelle, cerisier rose et pommier blanc, j'ai cru mourir d'amour pour elle en l'embrassant. Mais un beau jour, les demoiselles, frimousse rose et voile blanc, se font conduire à la chapelle par leur galant. Ah, quel bonheur pour chacun, le cerisier tout fleuri et le pommier n'en font qu'un. Nous sommes femmes et mari, de voir les fruits de l'été naître des fleurs du printemps. L'amour nous a chuchoté d'en faire autant. Si cette histoire est éternelle, pour en savoir le dénouement, apprenez-en la ritournelle. Tout simplement. Et dans 3 ans, 3 bébés roses, faisant la ronde gentiment, vous chanteront cerisier rose. Et palmier blanc.
André Claveau en 1950 dans Cerisier rose et pommier blanc. C'est la première chanson que vous avez chantée en public, Arlette Patrick, oui, à l'époque.
Voilà. Oui, parce qu'il y avait un monsieur qui était arrivé à la Turbie, comme ça.
La depuis... Turbie près de Nice, hein, près où de vous Nice, aviez grandi.
Juste voilà. Au-dessus de Monaco. Voilà. Et puis il a cherché les filles du pays. Pour chanter, pour faire un spectacle le 14 juillet, comme ça, sur la place du village. Et puis, évidemment, je me suis présentée parce que j'avais envie d'autre chose que ce qui était le quotidien. Voilà, puis j'ai chanté cette chanson-là.
Voilà, qui était dans toutes les têtes à l'époque. Voilà.
Et puis ce monsieur a été trouver mes parents et a dit, voilà, je trouve qu'elle a quelque chose pour faire du théâtre. Alors, il a dit, moi, je compte la mettre au Conservatoire de Nice pour la comédie, dans les ballets de Monte-Carlo pour la danse, et puis chez un professeur qui s'appelait D'Amico, à Monaco, pour le chant.
Voilà, tout ça, carrément, d'un coup.
Voilà.
C'est un monsieur qui avait de l'ambition pour
vous. Ah, mais il avait de l'ambition, voilà.
Mais alors, vos parents, votre père était électricien, oui. Il n'était pas du tout dans le milieu du spectacle.
Pas du tout, ma mère non plus.
Vous aviez grandi à Nice, un peu avant la guerre et pendant l'occupation.
Après, sur la fin de la guerre, on est allé habiter à la Turbie.
Voilà. Et alors, vos parents ont été convaincus par ce monsieur?
Mais il était sûrement très convaincant parce qu'il a dit, voilà, moi, je compte la mettre là, et en faire quelqu'un, quelque chose pour ce métier. Bon, mes parents ont dit, bah, oui, pourquoi pas. Ils sont tombés un petit peu du plafond parce qu'ils ne savaient pas vraiment. Ils se sont dit, bah, oui, pourquoi pas. Et je leur remercie de ne pas m'avoir mis les bâtons dans les roues à l'époque.
Ah, vous avez préféré quoi, apprendre le ballet à Monte-Carlo ou
le
chant à Nice?
M'intéressait. Non, c'était bien. Voilà, j'étais très contente de faire tout ça. Ça marchait très bien. Puis un jour, il m'a emmenée à Paris.
Voilà.
Qui m'a dit, la carrière, c'est pas là-bas, c'est à Paris.
C'est à Paris, c'est comme ça que vous avez débarqué à Paris en 1953
52.
Et
là...
Dis donc, le Paris de 1952, il était très différent de celui d'aujourd'hui, j'imagine.
Tout à fait différent, oh là là, ça n'a rien à voir.
C'est quoi votre première impression en débarquant dans la capitale?
Déjà, vaste, parce que, surtout sortant de la Turbie, c'est quand même un petit village. Mais voilà, donc je suis arrivée à Paris, puis il a démarché Mitty Goldin, qui était le directeur des Capucines, où j'ai été la doublure de Nadine Tallier, qui est devenue Madame la Baronne de Rothschild,
qu'on avait reçue dans cette émission.
Voilà. Dans les chansons de Bilitis.
Voilà, alors le théâtre des Capucines, donc c'était dans le quartier en face de l'Olympia,
En face de l'Olympia.
Voilà. Et les chansons de Bilitis, c'est une opérette de Joseph Kosma. Hein.
Oui.
Et donc vous êtes devenue la doublure de Nadine Tallier.
Ça
a été votre premier rôle au théâtre.
Ça a été mon premier rôle au théâtre. Voilà.
C'était comment cette chanson de Bilitis? On a quelques enregistrements, mais dans votre souvenir, alors, c'était un joli spectacle.
Oui, c'était pas mal, oui.
Et alors, quelques années plus tard, vous avez été aussi encouragé par la rencontre d'un agent très important qui était André Trive. Et c'était toujours à la suite d'un des spectacles que vous avez donné aux Capucines, à vos débuts.
Voilà, alors les Capucines, il y a eu une revue.
Il y avait de l'opérette et de la revue.
L'opérette, c'était l'hiver, et l'été, il y avait une revue.
Ah voilà. Et comme vous étiez à la fois danseuse et chanteuse...
Mais moi, je chantais avec Guy Chauvier, qui était le père de Serge Lama. À l'époque, Serge Lama n'était pas connu. Puis un jour, j'entends Serge Lama sur les ondes et je me dis, mais c'est la voix de Guy Chauvier. C'était drôle, parce que ça, c'était exactement la même voix.
Pour évoquer ses débuts dans l'opérette et dans la revue, on va écouter. Alors, on a retrouvé votre premier enregistrement, c'est un disque de 1955, dans lequel il y a deux chansons, qu'on va écouter un petit bout de chaque. Le Poulailler, extrait d'une opérette de Guy Lafarge, et puis Philomène, une histoire plus triste. Vous nous expliquerez cette chanson peut-être après qu'on l'ait entendue.
J'ai passé la nuit entière, bien cachée dans la volière, parmi les pintades et les pigeons ragnés. C'est tout ce qu'on apprend de choses, beaucoup plus qu'on ne suppose, quand on passe la nuit dans un poulailler. Coquet doux des loups, coquet doux des loups. aux aguets. Lionel, Philomène, gros cœur, triste et lourd, vous chargez de chaînes à quitter un jour. Pays qu'il aimait, grand fleuve et forêt. Voyez, jolie peau, le fouet l'a meurtri. Sous son vieux chapeau, ses cheveux ont blanchi. Par mauvais envie, l'ont mis à la peine. Vieux nègre, Philomène. Le son du tam-tam lui seront bien doux pour bercer son âme. Ses os tout blanchis à travers le temps joueront avec bon vent.
On aura remarqué cette grande vocalise à la fin là qui part du grave et qui va dans tout l'aigu. Alors ça, c'était très calculé, si j'ose dire, Arlette Patrick à l'époque, parce que c'était la mode d'Ima Soumac.
Voilà, il y avait une dame qui s'appelait Ima Soumac, qui avait une voix tout à fait étendue, très étendue. Alors voilà, on m'a demandé de faire une chanson comme ça.
Il faut dire que derrière ce disque, alors le premier morceau, c'était donc Le Poulailler, extrait de l'opérette Schnock de Guy Lafarge. Et il faut dire que Guy Lafarge était effectivement un peu responsable de la production de ce disque chez RCA.
Tout à fait, oui, voilà. Il était directeur chez RCA au niveau artistique.
Voilà.
Et il m'avait proposé Le Poulailler. Et puis, oui, voilà.
C'est lui qui vous avait proposé ces deux chansons.
C'est lui qui m'avait proposé ces deux chansons.
Un très bon compositeur d'opérette,
oui,
en tout cas.
Absolument.
Guy Lafarge.
D'ailleurs, Le Chapeau de paille d'Italie, si on en parle.
Que vous avez également chanté plus tard.
Oui. C'était de Guy Lafarge. Et ça n'a jamais été remonté. Et je me demande pourquoi. Parce que c'était très beau. C'est sur un texte de La Biche.
De La Biche, absolument. Vous avez aussi croisé, alors, dans ces années-là, Marie Dubas.
Qui s'est intitulée Ma marraine de spectacle. Voilà.
Voilà. C'est une merveilleuse artiste aussi.
Merveilleuse, ah oui.
Mais on peut dire que vous aviez un emploi, si j'ose dire, à ce moment-là, qui était plutôt ce qu'on appelle un rôle de fantaisiste, ou c'était le côté vocal qui vous intéressait le plus, enfin.
Mais c'était, j'ai toujours joué ce qu'on appelle les fantaisistes, voilà, dans l'opérette, oui, oui.
C'est ça, parce qu'il y a même des photos dans un magazine, on vous voit déguisé en cow-boy, on voit vraiment un peu à la Annie Cordy, quoi, une petite femme amusante,
oui,
etc. C'était votre spécialité. Oui. Alors, on va venir maintenant aux opérettes à grand spectacle, dans lesquelles vous avez été très, très présente aussi, à la suite du succès donc, de votre revue au Théâtre des Capucines, du premier disque. Vous étiez un peu repéré. Vous êtes allé d'abord sur la scène du Châtelet pour la création de Méditerranée, donc déjà avec Tino Rossi. Comment est-ce que vous avez participé à ce spectacle? Comment ça s'est passé?
Alors, justement, ce monsieur qui m'avait connu à la Turbie,
oui,
m'avait emmené à Paris, donc m'a fait rentrer aux Capucines. C'est lui qui démarchait tout ça. C'était un coach, en fait.
Ouais, ouais.
Et puis, il a démarché le Châtelet,
ouais,
pour Méditerranée, où je jouais le rôle d'Assunta, ouais, qui était une petite vendeuse, voilà. Et j'avais la doublure d'Aglaé, qui était le rôle principal féminin. Et il y avait Tino Rossi.
C'est là que vous l'avez rencontré pour la première fois. Donc.
Voilà, j'ai rencontré Tino Rossi pour la première fois et son manager qui était André Trive. Qui était
son agent.
Son agent, voilà. Donc André Trive.
Et qui était l'agent aussi d'autres artistes importants. Alors, comme Bourvil, comme Annie Cordy.
Annie Cordy, Bourvil, Colette Renard. Et il m'a dit, je vais vous prendre dans mon écurie et vous serez ma dernière vedette.
Ah oui.
Carrément. Bon. Et donc, j'ai suivi André Trive pendant longtemps, qui m'a fait faire plein de choses.
Plein de spectacles.
Voilà.
Alors, revenons d'abord un tout petit peu sur Méditerranée. C'était quand même une création à très, très grand succès, ça. D'abord, l'ambiance du Châtelet à l'époque, ça, c'est...
Bah, écoutez, moi, j'étais pas très consciente. C'est très curieux, parce que quand on est jeune comme ça, ouais, on se rend pas compte.
Ouais.
Moi, Paris, je connaissais pas, donc voilà, je sortais de la Turbie, ça. Et puis, j'arrive, je fais les Capucines, qui est tout un mouchoir de poche. Et puis, je bondis au Châtelet, dans ce grand théâtre. Tino Rossi, oui, j'avais entendu parler, je savais qu'il existait, machin, mais je ne savais pas que c'était la grosse vedette du moment.
Enfin, Maurice Lehmann, directeur.
Maurice Lehmann, le directeur, tout ça. Moi, alors, vraiment, j'étais complètement naïve dans ce truc-là. Bon, ben voilà, c'était mon métier qui continuait, qui, voilà.
Et de voir plus de 1000 personnes tous les soirs,
ben voilà, mais non, mais
au
c'était...
moment des saluts, etc.
Oui, mais c'est une inconscience, quoi. C'est très curieux.
Voilà. C'est-à-dire, finalement, vous avez enregistré plus tard Méditerranée, mais non pas avec Tino Rossi, mais avec André Dassari.
Voilà, c'est oui, ça, où il y a eu divers disques.
Une série de disques.
Qui sont sortis, voilà, avec des interprétations différentes, des gens différents.
Et alors, donc, votre donc, nouvel agent qui voulait faire de vous une vedette, André Trive, vous a notamment ensuite permis d'avoir encore un vrai rôle dans un autre grand succès qu'on a un peu plus oublié, qui s'appelait Naples au baiser de feu.
Voilà. Alors, voilà. Ça, c'était à Mogador.
À Mogador.
Voilà. Alors, Naples au baiser.
Vous préfériez le Châtelet ou Mogador, puisque c'était les deux grandes salles de l'époque?
Mais oui. Alors, finalement, j'étais un peu vouée aux grandes salles. C'est vrai que je suis restée dans Paris assez longtemps avec, ouais, tous ces théâtres.
Vous vous êtes sentie mieux au Châtelet ou à Mogador?
J'avais un rôle plus important à Mogador, déjà.
Voilà, dans Naples au baiser de feu.
Au Châtelet, c'était un petit rôle, voilà, avec une doublure, mais quand même. Oui, Mogador était peut-être un peu plus chaleureux.
Chaleureux,
oui. Ouais. Un peu moins grand, quand même.
Restons un petit peu à Naples au baiser de feu. C'était Renato Rascel, un, oui, chanteur italien qui avait écrit la musique.
Oui.
Et puis, c'était encore Tino Rossi, la vedette.
C'était Tino Rossi, la vedette, voilà. Parce que, donc, étant chez André Trive, je suivais le
ah,
le
ben
mouvement,
oui, bien sûr.
Mais voilà, c'est
bien
ça.
Sûr. Et on trouvait aussi dans cette opérette un fantaisiste de l'époque qui s'appelait Pierre-Jacques.
Oui, Pierre-Jacques, oui, c'est vrai.
C'était qui, Pierre-Jacques,
ah,
alors?
Oui, j'aimais bien Pierre-Jacques. C'était un garçon très sympathique. Oui, oui.
Voilà, on va vous retrouver en duo avec lui tout de suite.
Ah, vous avez le duo de...
Le duo de Naples au baiser de feu, de en Naples 1957.
Pour tous les deux, ma petite môme, ce qu'il nous faut, c'est un homme qui deviendrait ton royaume, un royaume de poupées miniatures. Une maison toute petite, quand on s'aime comme nous, c'est encore bien trop grand. Une maison toute petite, c'est immense quand on veut se blottir tendrement. On casera au mieux tous nos rêves bleus,
papa,
nos rires joyeux, nos baisers de feu,
papa,
et des bouquets de bonheur au petit bonheur.
Une maison toute petite, c'est un vrai paradis quand on est amoureux. Une maison toute petite. ça contient l'univers, les étoiles et les cieux.
Même le château de Chambord ne vaut pas sous ce rapport un petit nid bien douillet, bien discret, plein d'amour, nuit et jour, pour toujours.
Un vieux château historique, c'est royal mais pas pratique. Quand un fantôme diabolique vient le soir nous tirer par les pieds. Une maison toute petite, j'aimerais l'appeler, simplement ça me suffit. Une maison toute petite, un jardin comme le poing, plein de roses et de radis. Un petit arrosoir, une balançoire,
pour toi.
Un fauteuil d'osier sous un doux pommier,
pour moi.
Et un grand lit de milieu, pour deux,
une maison toute petite, un caniche endormi, de pigeons roucoulants. Une maison toute petite, un vieux coq prétentieux,
un ruisseau murmurant,
un pick-up sentimental qui nous joue la pastorale. Pour que ton cœur soit à l'abri,
il suffit
d'un petit nid,
tout petit,
tout petit.
Pierre-Jacques et Arlette Patrick, puisque vous appeliez comme ça à l'époque. D'ailleurs, tiens, je vous ai pas demandé, là c'était dans Naples au baiser de feu, donc sous le nom d'Arlette Patrick, mais pourquoi vous aviez pris ce pseudonyme ?
Eh bien, c'était le monsieur qui était venu à la Turbie,
qui vous
avait cherché
baptisé.
Les filles du village et qui m'avait baptisé en me disant « Mirapeux, c'est pas un nom de théâtre ».
Oui.
Or, c'était le nom de mon père.
Oui.
Voilà, et après, j'ai eu envie de reprendre.
De le reprendre, on y reviendra. En tout cas, dans Naples au baiser de feu, on vous voit d'ailleurs sur la pochette du disque, qui a été réédité par Marianne Mélodie, hein, avec un très joli chapeau blanc et voilà, un costume ravissant, comme on faisait dans les opérettes à grand spectacle. Sauf que vous pouviez pas beaucoup vous regarder dans les coulisses de Mogador.
Oh non, parce que Varna était...
Henri Varna, le grand Henri directeur Varna. De Mogador.
Voilà, hein. Henri Varna était très superstitieux et ne voulait pas de miroir sur dans la coulisse, sur la scène. Bon. Alors, on avait des espèces de plateaux brillants, astiqués, qui nous déformaient complètement. C'était monstrueux.
C'était les seuls miroirs que vous aviez le droit d'avoir.
Les seuls miroirs qu'on pouvait avoir.
Bon, ça a été en tout cas à nouveau un grand succès, hein, que Naples au baiser de feu.
Ah, mais toutes ces opérettes duraient 4 ans.
Et vous faisiez tout pendant 4 ans ?
Ben oui, oui, voilà.
Et les Amours de Don Juan ?
Alors, les Amours de Don Juan, c'est parce que Paulette Merval et Marcel Merquès sont partis.
Oui.
Je ne sais pas pourquoi. Et donc, Henri Varna donc, a remplacé Paulette Merval par moi. Et puis, c'est Jacques Chansen qui a joué, oui.
Carrément.
Un homme charmant.
Le grand Jacques Chansen,
ah,
l'interprète de Péléas.
Absolument.
Donc, vous avez chanté en duo avec Jacques Janssen, Les Amours de Don Juan de Juan Morata. C'est extraordinaire.
J'ai eu ce bonheur parce que c'était un être délicieux.
Et qui aimait passer de l'opéra à l'opérette, justement.
Oui, tout à fait.
Naturel.
Oui, oui.
Et puis, dans cette même époque, alors toujours sous l'influence de votre agent André Trive, vous avez également participé à des opérettes plus classiques, hein, et notamment avec Jacques Charon.
Oui, alors, ça c'était au Théâtre de Fourvière.
Théâtre antique de Fourvière à Lyon.
Le Théâtre antique de Fourvière à Lyon. C'était l'Opéra de Lyon, donc, qui produisait ce spectacle, qui était donc La Belle Hélène, avec Jacques Charon qui faisait Ménélas, qui avait un costume extraordinaire, qui était fait par André Levasseur à l'époque, ouais. Et qui avait une espèce de fourreau jaune. Et il ressemblait en fait à un insecte. C'était une abeille ou un frelon. Et il avait sur la tête deux antennes, comme ces bêtes-là. Quoi. Et alors, donc, à un moment donné, dans cette belle Hélène merveilleuse...
Vous chantiez quel rôle, vous ?
Moi, je faisais Oreste.
Oreste.
Et alors, il y avait une centaine de chœurs, tous en blanc. Et à un moment donné, on dit « Pars pour la crête, pars pour la crête ouais, !» Donc, ouais. Ménas s'en va, et c'est un hélicoptère qui vient le chercher.
Ah oui, déjà, à l'époque, oui. Bien avant Johnny Hallyday.
En 1960.
Voilà. À Fourvière. Et vous avez chanté d'autres opérettes classiques comme Fifi.
Toujours à Fourvière. Toujours mais alors Fourvière. Là, cette fois-là, c'était monté par Jacques Charon.
Lui-même qui faisait
lui-même.
La mise en scène.
Ouais. Et qui faisait Ménélas, c'était Robert Manuel.
Voilà, quand même des grands partenaires.
Voilà.
Et alors, toute votre vie à l'époque, Arlette Mirapeu, qui vous appeliez Arlette Patrick, c'était, tout était tourné vers le spectacle ou vous aviez aussi une vie de famille
Ah non, non, à cette époque-là, pas vraiment, non.
Non ?
Non, non, je faisais surtout de l'opérette. Et
c'est puis, tout ce qui vous intéressait ?
Oui, voilà. C'est ça. Et j'allais d'un théâtre à l'autre, allègrement, comme ça, sans me soucier de quoi que ce soit. C'était plus facile que maintenant, hein.
Oui, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, beaucoup de rôles importants. On pourrait citer aussi un spectacle. Alors ça, c'est un peu plus tard, au Théâtre du Palais Royal, qui s'appelait « Les folles années de l'opérette ».
Oui, en avec 1971. Dominique Tirmont. Oui. Voilà. Et puis, il y a eu la Gaîté Lyrique aussi, où on a joué « Premier rendez-vous ».
Premier rendez-vous.
Avec Raymond Souflex, Suzanne Dely.
Une grande artiste, alors qu'elle avait commencé avant la guerre aussi.
Oui, oui, oui.
Et alors, évidemment, la grande date qui suit, c'est 1972, c'est Hello Dolly à Mogador.
Voilà.
Dans la première version française donnée par Annie Cordy. On va vous retrouver tout de suite avec Annie Cordy et Paulette Delange dans un extrait de Hello Dolly.
Et vive l'Amérique, la mère patrie, où tout est bien en place. Allons saluer, car voici le drapeau qui... Les voyez-vous qui s'en vont vers les combats pour sauver nos patriarches? Ils s'en vont là-bas, là-bas, défendre l'Alabama. En avant, marche, marche, marche! Vive la République!
Hello Dolly, c'était la création française en 1972, toujours à Mogador. Et vous étiez toujours sous la houlette d'André Trive à ce moment-là
donc, non, c'était non fini.
Oui, voilà, c'était voilà, fini, mais ouais, ça ne vous a pas fini, empêché de continuer.
Mais ça a continué, voilà, oui, oui, ça a continué. Alors là, c'était le travail...
Patrick, toujours, ouais, hein, à ce moment-là.
Alors, oui, et alors là, c'est le travail avec les Américains qui m'a beaucoup intéressée.
Voilà.
Parce que c'est peut-être assez froid, mais c'est du fil à plomb.
Oui.
Et on savait absolument à la première ce qu'on allait faire.
Oui.
C'était vraiment, tout était en place.
C'était réglé au
jamais
moindre détail.
Jamais à la première comme là. Formidable, c'était Paul Glower qui avait fait donc la mise en scène en grande partie.
Parce qu'on était quelques années après la création à Broadway, mais en fait les Américains étaient venus superviser aussi la création française en somme.
Raymond Vogel l'avait créé à Nancy et avait fait une mise en scène, mais Paul Glower s'occupait surtout des ballets en fait, voilà. Parce que la mise en scène, c'était quand même Raymond Vogel.
Et là, vous aviez quand même un avantage, parce que finalement, c'était assez rare en France, dans votre génération, d'avoir fait à la fois la danse, le chant et le théâtre.
Voilà, à un moment donné, Paul Colère me dit, là, il y a des claquettes. Voilà. Bon, et moi, j'avais appris les claquettes. Donc voilà, j'ai fait des claquettes. Il n'était pas étonné du tout, parce qu'en Amérique, c'est comme ça.
Et le travail avec Annie Cordy, c'était sympathique?
Très sympa. Ouais. Oh, oui, non, Annie était vraiment une fille extraordinaire, superbe, vraiment.
Et vous chantiez le rôle de
Minnie Faye.
Minnie Faye, voilà. Hello Dolly, donc ça c'était 1972 à Mogador, encore un grand succès. Et pourtant c'est à peu près à ce moment-là que vous avez un peu changé de voix, Arlette Patrick, et que vous êtes redevenue Arlette Mirapeu.
Oui.
Dans les années qui ont suivi.
Parce que en fait, en réalité, j'ai toujours chanté, mais j'avais surtout envie d'être que comédienne. J'aimais le théâtre.
Oui.
Voilà. Mais bon.
La vie est ainsi faite.
La vie est faite, voilà. Donc, je ne pouvais pas faire autrement que de suivre mon métier. On me faisait des propositions, ben, je prenais les propositions. Et comme j'étais toujours dans le domaine du chant, on me proposait du chant.
Et puis alors donc, qu'est-ce qui s'est passé après Hello Dolly pour que finalement vous vous retourniez à la chanson et que vous retrouviez votre premier nom ? À la chanson à texte, je veux dire.
C'est ça. Au Palais de Chaillot, j'ai joué dans les théâtres d'Adamoff qu'avait monté Planchon.
Oui.
Roger Planchon. Et c'était avec Laurent Terzieff. Et je jouais là le rôle d'une prostituée. Et puis, un soir, je dîne avec Roger Planchon. Et je lui dis, j'ai envie de faire quelque chose toute seule. J'ai un tour de chant, mais bon, ça ne me suffit pas. Je voudrais traiter un auteur. Il m'a dit, fais un Bobby Lapointe.
Ah.
Moi, je dis, comment un Bobby Lapointe ? Ah bon ? Et puis finalement, je rentre chez moi, j'écoute le CD que j'avais. C'était pas un CD à l'époque, c'était un vinyle de Bobby Lapointe. Et je me dis, bah, tiens, pourquoi pas ? Tout est au masculin. Mais alors, j'ai mis une veste d'homme. Je me suis dit, je suis Bobby Lapointe.
Ah, voilà.
Et c'est parti comme ça. Et alors, j'ai répété ce spectacle. Et puis, finalement, il est devenu quelque chose. Et j'ai chanté pendant 27 ans le Bobby Lapointe, quand même.
Voilà, c'est devenu votre nouvelle spécialité,
voilà, c'est ça.
Après l'opérette à grand spectacle.
Et après, je me suis mise sur des auteurs. J'avais envie de traiter des auteurs.
Mais alors donc là, ça vous a paru évident que vous n'étiez plus Arlette Patrick, petite fantaisiste d'opérette,
voilà.
Mais que vous redeveniez Arlette Mirapeux.
J'ai repris le nom de mon papa. Voilà, j'ai dit, je deviens Arlette Mirapeux, je tourne la page de l'opérette et je rentre dans tout à fait autre chose qui est le One Woman Show, voilà, si on peut appeler ça comme ça.
Alors, Bobby Lapointe, vous lui avez notamment consacré un grand disque. Plus un spectacle enregistré aussi. Eh bien, on va vous retrouver, alors, Arlette Mirapeux, pour le coup, dans votre disque Bobby Lapointe. C'est un enregistrement public où vous mélangez d'ailleurs parfois le parler et le chanter, puisqu'on va vous entendre d'abord dans Charade et ensuite dans Boboléon.
Mon premier est dans la rivière, mon second est dans la rivière, mon troisième est dans la rivière et mon tout est dans la rivière. C'est trois petits chats noirs que j'y ai jetés hier. J'ai trouvé ça tout seul et j'en suis pas peu fière. Mais eux, les petits chats, qu'est-ce qu'ils en pensent ? 5 minutes plus tôt, ils étaient dans la panse de leur catène de mer. Puis, ouf, enfin de l'air. Puis le chaud du soleil. Puis, plouf, le froid. Comme quoi, et mon tout est dans la rivière. Là du bobo Léon, il porte un bandeau Léon. Il a du bobo Léon, oh, pauvre Léon. D'abord il s'appelle pas Léon. Et puis je me souviens plus de son nom. Je peux pourtant pas l'appeler Hortense. Et puis ça n'a pas d'importance. Il a du bobo Léon. Il va peut-être canner Léon. Il a du bobo Léon, oh, pauvre Léon. À l'hôpital pour le soigner où il avait mal. Il s'était fait mal dans la rue et on l'a soigné autre part. Et il est mort.
Voilà, c'était en 1993 à Paris avec Dominique Paulin qui vous accompagne donc Arlette Mirapeux dans ses chansons de Bobby Lapointe. Malheureusement, vous l'aviez jamais vu chanter en vrai Bobby Lapointe.
Si, je l'ai vu.
Ah oui.
Je l'ai vu à l'Alhambra.
Ah bon.
Mais
quelques... vous ne pensiez pas à ce moment-là que vous le chanteriez
non,
un jour.
Non.
Et par contre, vous avez vu ses enfants après.
Et après, j'ai vu Tisha et Jackie. Parce que je leur ai demandé les droits. Et surtout, Huguette Lapointe, qui était la sœur de Bobby Lapointe, qui m'a donné tous ces petits textes. Le petit texte que vous avez entendu tout à l'heure.
Voilà, donc c'est devenu une de vos passions finalement, Bobby Lapointe, mais aussi d'autres auteurs comme Pierre Louqui, comme Jean Tardieu. Alors expliquez-nous un peu, parce que au fond, tout ça coïncide avec aussi votre arrivée un peu dans notre monde de Radio France à travers une grande productrice de l'époque qui était Ève Grilliquez.
Oui. Voilà. C'est ça.
Comment ça s'est passé cette rencontre?
Alors, Ève Grilliquez, j'ai vu dans un petit journal qu'il y avait un libre parcours variété. J'avais mon tour de chant. Et puis, je me suis dit, voilà, quelqu'un, peut-être je peux. Alors, je dis, je peux venir avec ma cassette sous le bras pour vous montrer mes chansons. Moi, j'écrivais pas de chansons, mais des chansons que j'interprétais. Et elle m'écoute et elle me dit, mais vous avez quelque chose à faire dans la chanson? Alors, je vais vous prendre dans mon émission Libre parcours variété. Et ça a commencé comme ça.
C'était sur France Culture. Voilà. Et alors, c'était donc des émissions construites autour d'auteurs, d'écrivains, etc.
Voilà, de gens.
Alors, Jean Tardieu, par exemple, ça c'est venu comment?
Alors, Jean Tardieu, j'ai dit, je voudrais faire enfin jouer la comédie, parce que c'était aussi mon histoire. Je chantais toujours, mais j'avais envie de simplement dire. Donc, Ève me dit, il y a monsieur Jean Tardieu, je peux te présenter à lui. Et tu vas avoir avec lui les textes et tout ça. Bon, j'ai acheté tous les livres de Jean Tardieu, j'ai lu tous ses poèmes, et je suis allée trouver avec un montage que j'avais fait. Et puis, il me dit, vous avez lu tout ça? Je dis, oui, quand on veut traiter un auteur, il vaut mieux le lire. Ouais. Alors, très bien. Et alors, il y a un des poèmes que je vais vous dire, il est tout petit. Il m'a dit, vous avez mis ça aussi? Il a écrit un poème qui dit Tardieu, le personnage qui était Tardieu, enfin l'auteur merveilleux. Mmh. Ce petit poème, il l'a écrit quand il avait 7 ans. Et c'est « Une mouche se promenait sur l'océan. Tout à coup, elle fut prise dans du froid. Moralité, il faut toujours faire attention.
» Ça, c'est bien Tardieu, le minimaliste. Et grand personnage de l'histoire de la radio également,
absolument,
d'ailleurs.
Absolument. Voilà.
Alors, avec Ève Grilliquez, j'ai regardé, vous avez enregistré finalement beaucoup d'émissions où vous faisiez du parler et du chanter.
Absolument.
C'est ce que vous souhaitiez.
Voilà.
Et notamment, on peut peut-être écouter un extrait de ce libre parcours variété, du 10 juillet 1979. Oh, c'est une façon de saluer un grand compositeur de chansons qui vient de nous quitter, Paul Brafort, qui avait écrit avec Jacques Binns cette chanson intitulée « Le mari marin ».
Je voudrais un mari marin. Je voudrais un mari qui porte l'odeur musquée, poudreuse et forte de l'aquatique au romarin. Je voudrais un mari marin. Je voudrais un mari salé. Je voudrais un mari qu'on goûte en pour les champs, goutte après goutte, les eaux de son front étoilé. Je voudrais un mari salé. Je voudrais un mari brisé. Un mari jette du bout mordu de sa fourchette et que je pourrais repriser. Je voudrais un mari brisé. Je voudrais un mari noyé. Un mari que la mer abrite, à qui l'on jette marguerite et nénuphar pour la scindier. Je voudrais un mari noyé.
C'était Libre parcours variété du 10 juillet 1979, voilà. avec vous-même, donc Arlette Mirapeux, qui chantiez cette chanson de Jacques Binns et Paul Brafort, parmi les très très nombreux auteurs que vous avez illustrés. Alors on pourrait citer aussi Pierre Etex.
Oui, Pierre Etex qui a mis en scène le Bobby Lapointe avec un petit castelet qu'il avait fabriqué.
Ah oui, quand même, voilà. C'est pas mal.
Ah oui, oui, oui. Et puis vraiment, c'était un très beau spectacle.
Vous entendiez bien avec cet homme un peu taciturne qui était Etex.
Oui, mais voilà, quelqu'un de très rigoureux. Oui. C'était vraiment du fil à plomb pour le travail. Ça ressemblait un petit peu au travail des Américains.
Autre auteur que vous avez célébré dans vos spectacles, à partir de ce moment-là, il y a eu Pierre Loucki.
Il y a eu Pierre Loucki, oui, ça a été mon dernier spectacle, effectivement. Oui. Voilà.
Et avec encore un mélange de textes parlés.
Mais là, l'auteur était là aussi, comme Tardieu d'ailleurs. C'était quand même un avantage de pouvoir parler. Bobby Lapointe, ça m'a beaucoup manqué.
Ah oui.
Oui, parce que c'est intéressant de parler avec un auteur.
Bien sûr.
Voilà. Et alors avec Pierre Loucki, bien sûr, voilà, il m'avait fait une petite dédicace en disant « J'aimerais être traité dans mes chansons comme elle a traité Bobby Lapointe ».
Voilà. Oui,
donc un jour, il l'a mis après. Je lui ai dit « Tu complètes ?» Il m'a dit « Ben oui, mais maintenant c'est fait, j'en suis content ». Voilà.
Mais étant redevenue Arlette Mirapeux, vous n'avez plus envie de faire chanter Arlette Patrick et d'aller faire des tournées d'opérettes si ça s'était présenté au même
mais
moment?
Non, ça ne s'est plus présenté. Ouais. Non. Voilà, c'était fini. C'était une autre carrière.
Voilà, qui s'est produite notamment au Lucernaire et dans d'autres lieux à Paris.
Le Tardieu s'appelait Récatompilu. Ça a été créé au Lucernaire. Et puis le Bobby Lapointe, je l'ai créé au Lucernaire aussi.
Également. Et alors, parmi on peut dire peut-être vos modèles et les artistes que vous admirez, vous m'avez cité tout de suite le nom de Cora Vauquer.
Ah oui. Cora Vauquer a écouté une de mes cassettes avec mon tour de chant et a dit « Je veux connaître cette dame ». Bon. Donc, on se rencontre et elle me dit « Voilà, on me propose au nouveau Lucernaire de prendre quelqu'un en première partie. On me donne carte blanche, alors ce sera vous ».
Ah oui.
Voilà. Et donc, j'ai fait pendant un mois au Lucernaire, avec un monde fou, avec Cora Vauquer, en première partie de Cora Vauquer. Ça a été vraiment pour moi extraordinaire.
Et vous restiez pour la deuxième partie pour écouter
Cora Vauquer? Bien sûr, bien sûr.
Et notamment La pêche à la baleine?
Et notamment La pêche à la baleine, qu'elle chantait merveilleusement.
Et nous allons à La pêche à la baleine avec Prévert et Cosma.
À la pêche, à la baleine, à la pêche, à la baleine, disait le père d'une voix courroucée à son fils Prosper sous l'armoire allongée. À la pêche, à la baleine, à la pêche, à la baleine, tu ne veux pas aller, pourquoi donc?
Et pourquoi donc j'irai pêcher une bête qui m'a rien fait, papa? Va la pépé, va la pêcher toi-même si ça te plaît. J'aime mieux rester à la maison avec ma pauvre mère et le cousin Gaston. Alors dans sa baleinière, le père tout seul s'en est allé sur la mer démontée. Voilà le père sur la mer, voilà le fils à la maison, voilà la baleine en colère et voilà le cousin Gaston qui renverse la soupière au bouillon. La mer était mauvaise, mais la soupe était bonne. Et voilà sur sa chaise Prosper qui se désole. À la pêche, à la baleine, je ne suis pas allée. Et pourquoi donc je n'y ai pas été? Peut-être qu'on l'aurait attrapé, alors j'aurais pu en manger. Mais voilà la porte qui s'ouvre et ruisselant d'eau, le père apparaît hors d'haleine, tenant la baleine sur son dos. Il jette l'animal sur la table. Une belle baleine aux yeux bleus, une bête comme on en voit peu, et dit d'une voix lamentable, dépêchez-vous de la dépecer, j'ai faim, j'ai soif, je veux manger. Mais voilà Prosper qui se lève, regardant son père dans le blanc des yeux, dans le blanc des yeux bleus de son père, bleu comme ceux de la baleine aux yeux bleus. Et pourquoi donc je dépecerai une pauvre bête qui m'a rien fait, tant pis, j'abandonne ma part. Puis il jette le couteau par terre, mais la baleine s'en empare et se précipitant sur le père, elle transperce de père en part. Fit le cousin Gaston, ça me rappelle la chasse aux papillons. Et voilà. Voilà Prosper qui prépare les faire part, la
mère qui prend le deuil de son pauvre mari. Et la baleine, la larme à l'œil, contemplant le foyer détruit, soudain elle s'écrie: et pourquoi donc j'ai tué ce pauvre imbécile? Maintenant les autres vont me pourchasser en mode godille, et puis ils vont exterminer toute ma petite famille. Alors éclatant d'un rire inquiétant, elle se dirige vers la porte et dit à la veuve en passant: madame, si quelqu'un vient me demander, soyez aimable et répondez. La baleine est sortie, asseyez-vous, attendez-la. Dans une quinzaine d'années, sans doute, elle reviendra.
Cora Vauquer en 1973 dans La Pêche à la Baleine. Cora Vauquer avec laquelle vous étiez donc au Lucernaire, Arlette Mirapeu, dans cette seconde vie de chanteuse à texte. Un art que vous avez d'ailleurs contribué à transmettre avec notamment un atelier de la chanson que vous avez animé à Asnières.
Ah oui, d'abord à Nanterre, ensuite aux Ulysses et puis à Asnières.
Voilà, et parmi les moments aussi un peu inattendus de ce parcours singulier qui est le vôtre, il y a également alors toutes les voix d'un film qui a eu beaucoup de succès, un film d'animation qui s'appelait Prince et Princesse.
Oui.
Alors... Donc vous avez fait toutes les voix féminines. Racontez-nous un peu.
Alors bon, bah, il y avait d'abord La Princesse, bien sûr.
C'est un film de...
De Michel Osloo.
Voilà.
Et donc il y avait La Princesse pour le rôle principal, et puis alors je faisais toutes les petites bêtes. Alors la tortue, on se demande un peu comment, parce que c'était une création, donc comment on peut parler une tortue? On se dit, elle parle comme ça, elle essaie de parler tranquillement. Enfin, bon, voilà. Bon, voilà. Et puis les petites souris, perché, maintenant je ne peux plus faire, mais à l'époque je pouvais faire très aigu mes petites voix de souris et autres. Et puis voilà, les poissons, tout, enfin toutes les voix de femmes dans,
ah oui, ce, ça devait être très amusant à
Prince
faire.
Et Princesse.
Ouais. Et ça, on le trouve d'ailleurs en DVD,
absolument.
Prince et Princesse, avec les voix donc d'Arlette,
ouais, les voix multiples de femmes.
Voilà. Quand on regarde d'ailleurs votre discographie, on trouve encore d'autres choses un peu inattendues. Quelques chansons féministes, on pourrait dire, dont une qui s'intitule « J'ai battu mon homme ». C'est, voilà,
oui,
un renversement
ça,
intéressant.
Céleste Mogador.
Céleste Mogador.
Qui était une émission de Martine Cadieux.
Voilà.
Que j'ai bien connu aussi à l'époque.
Voilà, qui avait monté une émission sur cette grande artiste du 19e siècle,
oui.
Voilà, qui a écrit des chansons étonnantes, qui aujourd'hui ont encore une certaine actualité. Vous avez fait des chansons pour enfants, et je propose pour nous quitter, chère Arlette Mirapeu, alias Arlette Patrick, une de ces chansons de Céleste Mogador qu'on évoquait tout à l'heure, intitulée « J'ai battu mon homme ».
Dieu les hommes, quelle engeance! Le mien est paresseux, têtu. Mais j'ai su trouver ma vengeance, et dame, il vient d'être battu. La lune de miel fut bien douce, flaque sans rime ni raison. La coquine qui devient rousse et met le feu à la maison. Fallait que ça finisse, j'ai battu mon homme. Oh, mais il est battu comme plâtre! Comme si rentrait tard, je criais, il riait. Quand je pleurais, il chantait en jouant du mirliton. C'est ça qui me faisait rager. Sous prétexte que je suis forte, je fais valoir tout notre bien. On ne sait pas ce que je porte, tandis que lui vrai ne porte rien. Monsieur s'en va à la guinguette et se remplit comme un tonneau. Alors il revient sur la tête, jurant qu'il n'a bu que de l'eau. Si tant seulement le vin le rendait aimable, j'aurais trop rien dit. Faut qu'un homme ait un défaut. Nicolas bat sa femme, Bouvier trompe la sienne avec une fille qui boite du pied gauche et louche de l'œil droit. Pierre mange ce qu'il a et même ce qu'il n'a pas. Martin est bossu. Il y en a plein de parfaits, quoi. Mais quand mon mari a bu, il ronfle comme un soufflet de forge. Quand on ronfle comme ça dans son ménage, que je me suis dit, c'est pas naturel. J'ai cherché et j'ai trouvé. Faut que je dise que mon homme, donc, faisait le mari garçon. Monsieur voulait manger la pomme, je l'ai fait mordre à la meçon. Hier je lui dis je vais en ville, je serai trois grands jours là-bas. Il promet d'être bien tranquille, pour voir je reviens sur mes pas. Je reviens donc, et je vois, à table, au café-concert, avec mon chien et mon homme, la Jeanne, un échalac à cinq dents, des yeux de chat et des pattes d'éléphant. C'est elle qui lui apprenait à chanter. Eh ben, je lui ai appris à danser. Je suis tombée sur la Jeanne, elle est tombée sur le chien, mon mari est tombé sur eux et j'ai cogné dans le tas. On a crié « À la garde, à la porte !» Ils se sont sauvés. Mais il est rentré l'oreille basse. Lui, mon mari, pas mon chien. Maintenant, je sais le moyen de l'empêcher de ronfler. Mon gueux d'homme ne dort plus que d'un œil et moi, je veille des deux. Maintenant, la paix est bien faite, mais un bon avertir en vaut deux. Qu'il prenne bien garde pour sa tête, je lui arracherai les deux yeux. Oui, je serai sans indulgence, il peut être très convaincu que si jamais il recommence, Dame, il sera plus que battu.
J'ai battu mon homme, voilà, ça nous change un peu de l'actualité. Une chanson de Céleste Mogador, interprétée par mon invité ce matin, Arlette Mirapeu, dite Arlette Patrick. Et vous pouvez d'ailleurs retrouver un certain nombre de ses enregistrements, notamment ceux d'opérette avec Tino Rossi, dans la collection Opérette de Marianne Melody. J'aime bien ces musiques hawaïennes qui étaient très à la mode dans les années 30, notamment aux États-Unis. Là, c'était Sol K. Bright et c'est Hollywayan, ce mélange de Hollywood et de Hawaï. Donc, dans ce morceau enregistré en février 1934.
Étonnez-moi, Benoît. Benoît Dutertre, France Musique.
Et pour terminer cette émission, eh bien, je vous ai choisi quelques documents rares et merveilleux, à commencer par l'excellent Beethoven, auquel j'avais consacré toute une émission l'an dernier. Je me suis dit, puisque nous avions un peu de temps, qu'on allait écouter en entier une de ses plus belles réalisations discographiques chez Odéon à la fin des années 20. Ça s'appelle « Les amours de Jean-Pierre » et c'est un pastiche d'opéra comique, d'opéra du 19e siècle. Mais on retrouve tous les clichés, le retour au village, la petite chanteuse qui dialogue avec un oiseau, le chœur des buveurs, etc., etc. Il fait ça tout seul à son piano. C'était un grand musicien, il avait le prix de Rome, il connaissait toutes les clés de la musique pour en faire des numéros comiques que tout le monde courait, au détriment d'ailleurs de ses œuvres plus sérieuses. Voici donc Beethoven dans Les Amours de Jean-Pierre, de face de 78 tours.
Les Amours de Jean-Pierre, opéra exagéré en un acte. Quand le rideau lève, c'est le cœur des buveurs, des types qui chantent faux, qui sont sales et qui font semblant de boire dans des verres qui sont toujours vides. Cœur des buveurs. Plus vos amis, plus vos anneaux, maîtresse. Plus vos amis, plus vos anneaux, amour. Plus vos amis, plus vos anneaux, amour. Plus bon, plus bon, plus bon, bon. Enverse, verse le vin des amours. Enverse encore, enverse, verse, verse le vin d'image, le vin divin d'amour. Ils choquent leur verre. Premier buveur. Mais comment se fait-il que notre ami Jean-Pierre ne soit pas parmi nous pour boire à ses amours? Le cœur, ben oui, pourquoi n'est-il pas là? Pourquoi n'est-il pas là? Deuxième buveur, toi, Collant, le coiffeur respecté, sais-tu où Jean-Pierre est? Sais-tu où Jean-Pierre est? Collant, il doit revenir bientôt, car il est fiancé. Le cœur, à qui? À qui? Qui nous le donne? Ami Collant, Collant, à la plus blonde, à la plus pure, à la plus jolie des jeunes filles. Le cœur à qui? À qui? Dis-nous le don, dis-nous le don. À Bicolor, voilà. À Rosemarie, la fille de Landry, le fermier respecté. Le cœur, la fille de Landry, ah, 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 n'est pas pour lui. Entrée de la mère, pas pour mon fils, pas pour mon gars. Ah, 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 classe lance, ah, trahison les cœurs. Oh, classe lance, oh, trahison la mère. Entendra, aïe, entendons, trahison les cœurs. Andy-y, entendra, entendons-y, entendra. La mère, je jure devant le Christ, petite flûte. Devant les cieux immenses, la mer et le tonnerre, la foudre et tout le bazar. Que même si Landry offrait pour mon gars sa fille dans un plat, aussi vrai, jour de Dieu, que l'on me nomme la sorcière, je les maudirai tous. Le cœur, jour de deuil, jour d'horreur. Air de la malédiction, la mère s'avance au trou du souffleur en roulant des yeux énormes. Malheur, oui malheur, à tous les lépreux, à tous les véreux, à tous les quinteux. Cœur, malheur, à tous les véreux, à tous les quinteux, à tous les lépreux. La mère, oui malheur, oui malheur, oui malheur, oui malheur le cœur, oui malheur, oui malheur, oui malheur, oui malheur tous, oui malheur, 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 malheur. Tout le monde sort. Deuxième scène. Entrée de Rosemarie. Elle est grande comme un jour sans fin. Elle a l'air bête, saute plus. Regarde en l'air pour voir les derniers oisillons s'envoler dans la brise du soir. Sortis les derniers oisillons. Récitatif. Jean-Pierre, mon bien-aimé, mon père si cruel, tu le fais de ma main pour la donner au duc. Mais moi, je ne veux pas du duc. Mais moi, je ne veux pas du duc. Car c'est toi que j'aime, car c'est toi que j'aime. Oh mon Jean-Pierre, oh mon Jean-Pierre. Oh, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi que je aime.
Mais si si par sort fatal, je devais épouser le duc sur le plus haut rocher, près de la petite église Sainte-Marguerite, je monterais et plongerais dans l'immense flot. Final de l'air, plutôt la mort que d'être duc, ma foi, je t'ai donné ma foi. Non, pas du duc, non, pas du duc, plutôt la mort, plutôt la mort. Ah, ah, plutôt la mort, 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 là, elle s'en va en rigolant. Elle est partie, cœur des bourgeois qui se promènent. Oh, quel beau pays, quel beau temps qu'il fait pour se promener. La belle ville que celle-ci, qu'il fait pour se promener les manches, qu'il fait pour se promener. Promène. Mais quel malheur! Mais quel malheur, quand ce jour de fête, Jean-Pierre, notre ami, ne soit pas pris avec nous.
Le cœur, il ne reviendra pas, il ne reviendra pas.
Corps au lointain. Un individu, un choriste, un homme du Nord. N'entendez-vous pas le corps au fond du bois? Le cœur, c'est lui, de sa vaillante de chasse. Il revient en vainqueur, en cette Jean-Pierre. Et puis salute-toi, et puis salute-toi, et puis salute-toi, et puis salute-toi, Jean-Pierre. À mes amis, ça, salut.
Le cœur, as-tu fait bonne chasse? As-tu fait bonne chasse? Dis,
passez la chasse par Jean-Pierre. Parti dès l'aube, le cœur vaillant, armé de mon fusil à deux coups, j'ai saché le poulet désossé. L'ennemi se cachait dans le flanc des montagnes, mais grâce à mon courage, j'ai su le déloger. À quel plaisir de chasser le poulet, taillot, 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 sus le poulet, en chasse, en chasse, en chasse. Le poulet est énervé, sus et sus et sus, sus le poulet, surexcité.
Le cœur, à mort le poulet, à mort le poulet, à mort le pou, à mort le poulet. Poulou, 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 poulou,
énervons et mangeons le poulet. Il est faisant des croquets, manger, sucer, pétrir, rouler, haché, diminué.
Il en a plus, il est vaincu, il est vaincu. La mort, au poulet.
À mort! Un messager du duc. Un messager du duc.
Le messager. Peuple, le duc est mort pour avoir trop mangé de cacahuètes. Le cœur gourde de deuil, jour d'horreur.
Jean-Pierre s'avançant illuminé. Mais si le duc est mort, j'épouse Rosemarie. Au jour trois fois heureux, tout le monde rentre comme par enchantement.
Ils sont fiancés, buvons alors amour. Ils sont fiancés, buvons, buvons alors amour. Buvons amis, buvons assez, amour. Buvons amis, buvons assez, maîtresse. En verse, 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 verse. Le divin vin d'amour.
Et voilà.
Un peu de Freischutz, un peu de Dinora, d'autres références encore dans cet époustouflant enregistrement de Beethoven, alias Michel Maurice Lévy, Les Amours de Jean-Pierre, deux faces, 78 tours, Odéon de la fin des années 1920. La ronde des policemen, extrait de la grande version d'Orphée aux Enfers par l'orchestre et les chœurs du Capitole de Toulouse sous la direction de Michel Plasson. On va se quitter avec quelques valses de Strauss, mais pas des valses de Johann Strauss, ni de Joseph d'ailleurs, des valses de Richard Strauss, le grand Richard, qui a rendu hommage à ce genre de la famille, même s'il n'en faisait pas partie, en écrivant en 1944 la suite, les suites de valses tirées de son opéra Le Chevalier à la Rose. On les écoute tout de suite dans la version du Concertgebouw d'Amsterdam sous la direction d'Eugen Jochum. Ah, cette abondance de notes, cette virtuosité, c'est évidemment la marque du grand Richard Strauss qui a voulu lui-même, comme les autres Strauss, écrire une suite de valse, mais une suite très personnelle, tirée du Chevalier à la Rose. Ça, c'était la première d'ailleurs des suites qu'il a tirées de son opéra. Il y en a encore d'autres et celle-ci est particulièrement belle, notamment dans cette version de l'orchestre du Concertgebouw d'Amsterdam sous la direction de Gagnerum en 1952. Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Dutertre préparée par Annie Comier. Aujourd'hui à la technique Valérie Lavalard, réalisation Christine Amado. Et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine, j'aurai le grand plaisir de recevoir Dick Annegarn. Bon week-end à tous sur France Musique. France Musique, où vous avez maintenant rendez-vous avec Sébastien Linares.
À réécouter sur francemusique.fr.